Bonjour et bienvenue à cette série sur l'offense. On a vu avec l'histoire de Joseph l'offense des pères, c'est-à-dire causée par des frères, des sœurs. On a vu avec l'exemple de David l'offense créée par des pères, par des papas. Et à ce propos, je voudrais te dire que si tu as un compte à régler avec ton père biologique, ton père terrestre ou ton beau-père, qu'il y a quelque chose de poison qui est dans ton cœur, je t'encourage à écouter ce message sur l'histoire de David. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'histoire du grand prêtre Élie, pas le prophète, mais le grand prêtre Élie, et qui va illustrer notre thème d'aujourd'hui qui est l'offense dans l'Église. Amen. Alors, on voit au travers de l'exemple du grand prêtre Élie, qu'on peut lire dans le premier livre de Samuel, que Élie n'était pas un leader sans faille, loin de là. Il est dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 29 qu'il honorait ses fils plus que Dieu. Et au verset 17 que ses fils offensaient gravement le Seigneur. Et même on lit dans 1 Samuel 2, que Dieu va envoyer à Élie un prophète pour lui faire des reproches. Donc Dieu corrige aussi ses serviteurs. Et pourtant, quelque chose de tout à fait étonnant, alors que le chapitre 2 de 1 Samuel nous raconte les défaillances de ce prêtre, de la prêtrise et de ce qui se passait dans le temple du Seigneur du temps de Élie, on lit au chapitre 3, au verset 1er, « Quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. » Quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'un futur serviteur de Dieu, parce que Samuel, ça va devenir un grand homme de Dieu, pourquoi, Seigneur, as-tu permis qu'il te serve sous la surveillance d'un leader d'église, d'un temple qui était défaillant, d'une prêtrise qui était défaillante. Et si on avait été à la place de Dieu, je pense qu'on aurait fait un autre choix, on aurait placé Samuel sous un autre leadership. Et peut-être ça nous pose la question, pourquoi Dieu permet-il que ses brebis soient placées sous la surveillance de leaders qui ne sont pas irréprochables, totalement irréprochables. Alors bon, je sais, pour Élie, c'était quand même grave, les choses qu'il faisait. C'était pas lui, mais le fait qu'il fermait les yeux sur les agissements de ses enfants, ça c'était pas juste. Mais lui, en soi, était un homme qui craignait Dieu, qui honorait Dieu. Mais par là, peut-être Dieu veut nous montrer que, voilà, nos leaders ne sont pas parfaits. On ne doit pas s'attendre à ce qu'on va être sous la surveillance de leaders totalement impeccables. Parce que le problème, c'est que quand on cherche un leader parfait, eh bien, on ne va pas le trouver. Et donc, on va quitter le leader dès qu'on trouve sa faille et on va aller sous un autre leadership. Et là, on va raconter à tout le monde les griefs qu'on a contre notre ancien pasteur. Mais pour le cas de Samuel, il est dit qu'il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. Pour Dieu, il n'y avait pas une gravité telle que cela exigeait que Samuel puisse partir. Et Samuel, il a servi de son mieux. Il savait que Dieu ne lui avait pas donné le mandat pour juger ou corriger Élie, parce que ce mandat appartient au Seigneur, il mandate qui il veut pour le faire. Et puis en plus, il était tout jeune. Et comme John Bevere le dit, ce ne sont pas aussi les enfants qui corrigent les pères. Mais voyez-vous, aujourd'hui, comme je l'ai dit, les hommes et les femmes sont si promptes à quitter les églises. Et vraiment, quand ils n'aiment pas des choses chez leurs dirigeants. Et parfois, ce sont des choses qui ne sont pas aussi graves, qui ne justifient pas un départ. Alors, une bonne fois pour toutes, si tu es chrétien, et je le dis aussi pour moi, rappelons-nous que Jésus est le seul pasteur parfait. Et pour te la rappeler, écris-le noir sur blanc et mets-le sur ton frigidaire. Ça t'évitera bien des offenses ou ça t'évitera d'aller d'église en église comme un vagabond à la recherche d'un pasteur parfait, à part Jésus. Cette espèce-là n'existe pas. Alors, il serait peut-être temps qu'on quitte nos couches-culottes et qu'on apprenne à affronter, à surmonter nos déceptions, nos frustrations, et qu'on devienne davantage mature. Il faut savoir aussi que chaque fois qu'on quitte une communauté chrétienne, une église, qu'on quitte une surveillance que Dieu a établie sur notre vie et qu'on s'engage dans une nouvelle communauté ou une nouvelle relation, eh bien, la nouvelle relation va être affectée par ce qui s'est passé dans l'ancienne relation. Et John Bevere dit qu'il est impossible d'établir une relation saine avec une personne qui a laissé derrière toi, elle, des ardoises, c'est-à-dire elle a laissé derrière elle des relations brisées, amères, outragées. Les nouveaux enracinements ne fonctionneront pas dans la durée. Il faut que la repentance passe par là et aussi la guérison. J'aimerais vous dire ce que Dietrich Bonhoeffer a écrit. C'est un pasteur allemand qui a lutté contre le nazisme et d'ailleurs il est mort peu de temps avant la libération parce qu'il avait été emprisonné. Il a écrit ceci. C'est vraiment un pasteur qui aime l'Église dans sa réalité qui écrit ceci. Je le cite, celui qui aime, dit Bonhoeffer, l'image qu'il rêve de la communauté, plus que la communauté elle-même, deviendra un destructeur de celle-ci. Il y a énormément de sagesse dans cette parole. J'ai été pasteur, je suis pasteur depuis tant d'années, et j'ai vu tellement de chrétiens idéalistes qui se font une idée de l'Église comme on pourrait la concevoir en rêve. Ils ont une image parfaite de l'Église, une Église telle qu'ils en rêvent. Et c'est comme si ils aiment cette image, c'est une idole presque, je dirais, dans leur tête. Mais la vraie Église, elle est différente de leur rêve. La vraie Église où ils se trouvent, elle, ils ne l'aiment pas, ils ne la servent pas. Elle est tellement différente de l'image qu'ils s'en font. Et bien souvent, ces gens-là qui sont déçus par la réalité qu'ils voient tangible, eh bien, ces gens auront tendance à devenir des destructeurs de l'Église. C'est-à-dire, ce sont eux, parce que peut-être ces déceptions, ils n'arriveront pas à les gérer d'une manière mature. Ils vont commencer à critiquer, ils vont commencer à juger, peut-être ils vont commencer à devenir amers, et ils vont finalement devenir une force d'opposition qui, au lieu de bâtir et d'édifier l'Église, va la miner et la détruire. J'ai entendu aussi un jour le témoignage de Heidi Baker qui m'a vraiment touché. Elle disait Heidi Baker que voilà, elle s'imaginait quand elle est devenue chrétienne qu'elle entrait dans un monde, pas dire bisounours, mais un monde vraiment magnifique. Elle s'est jointe à une église et pour elle c'était tout nouveau. Il devait y avoir l'amour puisqu'il y avait Dieu, voilà. Et donc elle se faisait cette image-là. Idéal de l'épouse de Jésus-Christ. Et puis un jour, je crois qu'elle a eu un rêve. Quand elle a commencé à avoir du mal, elle a commencé à découvrir une autre facette qu'elle n'avait pas vue, parce que quand on est amoureux, des fois, on est aveugle, hein. Premier amour, on est aveugle sur les choses. Mon autre pasteur, il est parfait. Cette église, elle est parfaite. Voilà. Et puis au bout de quelque temps, on change de discours. Eh bien, elle était troublée par se rendre compte qu'elle n'était pas exactement l'Église comme elle l'imaginait au départ. Et Dieu lui a donné un rêve où il y avait une belle femme, mais alors elle n'était pas bien coiffée, Elle avait du rimmel qui avait coulé sous ses yeux. Son habit était pas très vraiment harmonieux. Elle avait des chaussures à talons, mais un peu trop, qui ne touchaient pas trop. Peut-être elle avait du mal à marcher, quoi. Bon, enfin, pas la femme qui vous attire vraiment, quoi. Et quand elle s'est réveillée, enfin, s'est dit, mais c'est quoi ça? Et le Seigneur a dit, c'est mon épouse. Alors là, le Seigneur Eddie Becker était choqué. Il dit, ouais, c'est ce que tu vois de l'église, c'est ce que je la vois aussi. Je vois que quand elle n'est pas bien peignée, je vois aussi ses imperfections. Mais rassure-toi, ne te fais pas de soucis. J'arrangerai ça quand elle viendra au ciel. Et là-bas, elle sera glorieuse, magnifique, sans rides et sans tache. Alors voilà, on veut une église qui se sanctifie. On veut une église qui est la plus belle possible, mais ne nous achompons pas quand on découvre qu'ici ou là, mais plutôt prions pour que Dieu intervienne pour corriger ses défauts. Alors, le Seigneur nous prévient, on le lit dans sa parole dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son frère, eh bien c'est un menteur. Et il est dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Et oui, Dieu, on n'a pas de mal, les gens n'ont pas de mal à l'aimer. On ne le voit pas pourtant. Mais mon frère que je vois chaque dimanche, quand je vais à mon église ou dans ma groupe de maison, ce frère grincheux, ce frère, quand il parle, il est toujours un petit peu agressif, ou cette sœur qui me dit jamais bonjour, dirait qu'elle me voit, pst, elle se détourne. Oui, c'est le frère que je vois, c'est la sœur que je vois. Et Dieu dit, si je l'aime pas, le Seigneur, tu n'aurais pas pu m'en donner une autre. Ben non, il choisit pas, on ne choisit pas ses frères et sœurs, c'est Dieu qui choisit ses enfants. Et il nous demande d'apprendre à les aimer, même s'il y a des choses pas très très sympathiques ou des choses qui nous dérangent dans leur vie. Voyez-vous, dans l'Église, il y aura des offenses. Et c'est la manière dont on va gérer ça que ça va influencer notre avenir. Alors d'abord, dans l'Église, c'est vrai, il y a des offenses qui sont coupables, des choses graves. Comme pour, par exemple, les fils d'Élie qui se comportaient mal, ça a dû être confronté, ça a dû être aussi discipliné. Donc, quand il y a une offense grave, il faut absolument que celui qui a causé l'offense se repente, répare là où c'est possible et quand c'est possible. Il faut que ceux qui ont été offensés ont prié pour eux, qu'ils puissent aussi être guéris, qu'ils puissent être restaurés. Et si la personne qui a causé l'offense refuse, de se repentir, il faut la discipliner. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais voyez-vous, il n'y a pas que des offenses coupables dans l'Église. Il y a parfois aussi des offenses parce que qui sont légitimes, comme par exemple, on peut être offensé par la vérité. Vous savez que parfois dans les églises, eh ben, on va entendre des choses qui sont vraies, mais qu'on n'aime pas. Et Jésus, eh bien, il est dit que même ses ennemis lui accordaient cela, tu dis la vérité et tu enseignes la vérité sur la conduite que Dieu demande et tu n'as pas peur de ce que pensent les autres. On lit ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 16. Jésus n'avait pas peur de ce que les pensent les autres. Donc si tu as un pasteur, un enseignant qui n'a pas peur de tes réactions et qui prêche avec intégrité la parole de Dieu, ça se peut qu'il y a des sermons que tu ne vas pas trop aimer. Ça se peut qu'il y a des conseils que qui va te dire, tu vas demander des conseils, et ce qu'il va te dire, ça ne te plaît pas. Ce n'est pas ce que tu avais envie d'entendre. Et là, tu te sens offensé. Est-ce que tu as été offensé par le péché ou est-ce que tu as été offensé par la vérité? Et si tu as été offensé par la vérité, c'est une bonne offense. Ta parole, il y a un chant qui dit ta parole est blessure qui nous donne de voir le jour. Et parfois, on est offensé par la vérité parce qu'on n'a pas envie de changer. Parce que voilà, on ne veut pas se soumettre, on est rebelle à ce que Dieu essaie de nous dire. Parfois aussi, John Bevere raconte dans son livre qu'on est offensé, des chrétiens peuvent être offensés dans leur église Juste simplement parce qu'on ne fait pas tout leur caprice. Eh oui, ça existe, les chrétiens capricieux. Je ne sais pas si tu en es un, je ne connais pas ton cœur, mais je voudrais te raconter une petite histoire que John Bevere nous cite dans son livre L'offense, l'arme cachée de Satan. Il dit ceci: souvent les pasteurs sont sous le contrôle des gens. Ils pensent qu'ils doivent faire tout ce que les gens leur demandent. Un administrateur d'une église qui venait de perdre son pasteur m'a dit un jour, c'est John Bevere qui raconte ça, nous voulons un pasteur qui satisfera à tous nos besoins, qui viendra chez moi tous les matins à 8 heures prendre le café. Et John Bevere écrit, j'ai pensé en mon for intérieur, vous trouverez un mondain que vous pourrez contrôler, mais certainement pas un homme contrôlé par le Saint-Esprit. Et j'ai appris plus tard que cette église avait vu passer 4 pasteurs en 18 mois. C'est pas étonnant, parce qu'ils cherchaient un pasteur qui satisfasse, en tout cas cet ancien dans le conseil de l'église, il voulait un pasteur à sa solde qui ferait tous ses caprices, être à 8 heures là tous les matins pour prendre le café, parler de l'église. Et ben voilà. Si vous êtes capricieux, vous serez toujours offensé, toujours, toujours. Parce que Dieu ne veut pas d'enfants capricieux, donc il ne fera pas tous vos caprices. Mais aussi, parfois, c'est pas qu'on est capricieux, mais c'est qu'on a des attentes. Quand tu joins une église, tu as une attente d'être aimé, une attente, voilà, que des bons messages, des bonnes prédications qui t'édifient, l'attente peut-être qu'il y aura un groupe de maison près de chez toi, enfin, je sais pas, ou peut-être qu'ils vont créer un ministère social, ou peut-être qu'ils vont faire des voyages missionnaires. Donc tu as des attentes. Comme quand tu vas à un magasin pour chercher quelque chose, tu as des attentes. Et si tu trouves pas ce que tu cherchais dans le magasin, ben, tu ressors déçu, frustré, et tu vas aller voir ailleurs. Eh bien, John Bevere raconte dans son livre une histoire intéressante qui s'est passée dans la Bible par rapport à Lazare et à Béthanie. Vous savez que quand Jésus est arrivé à Béthanie, eh bien, Lazare était déjà mort. Et Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, lui dirent chacune à Jésus, mais si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, mais pourquoi t'es pas venu tout de suite, Jésus? Tu aurais pu le sauver. Il est plus que probable, dit John Bevere, que les deux sœurs étaient en fait offensées, parce qu'elles avaient envoyé un messager à Jésus quand son ami était très malade pour lui dire viens vite, et voilà qu'il a attendu encore 2 jours. Il n'a pas réagi, Jésus, comme les deux sœurs l'attendaient. Il n'a pas laissé tomber tout de suite pour se précipiter à Béthanie. Au lieu de cela, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et sur le moment, c'est vrai, Jésus donnait l'apparence d'être apathique, de ne pas réagir, comme si il se moquait de cette affaire. Eh bien, voyez-vous, les deux sœurs de Béthanie, elles avaient tort. Elles avaient une attente. Jésus n'a pas fait les choses comme elles attendaient. Mais est-ce que Jésus a mal fait? Non. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Alors parfois, tu aimerais, voilà, que ça soit dirigé de cette manière. Ça, c'est pas la voie que ça prend. L'important, c'est que ce soit le Saint-Esprit qui dirige, pas qu'on fasse comme toi tu penses ou comme toi tu voudrais. Je pense que tu as compris ce que je voulais vous dire. Et à propos d'accusation, parce qu'il y a trop de qu'en dira-t-on? Alors, tu sais, le pasteur, il a fait ça, ou le pasteur, il a dit ceci. Oh, bon. Puis après, j'appelle Martine. Martine, bonjour, j'appelais pour prendre de tes nouvelles. Et puis au fait, il y a Sophie qui est venue, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et puis, vous savez, et ça colporte comme ça. Mais la Bible dit, ne reçois pas d'accusation contre un ancien, c'est-à-dire un responsable d'église, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Donc, tu n'as pas le droit de critiquer dans le dos des gens si le fait n'est pas établi par au moins deux ou trois témoins. Et quand le fait est établi, tu n'es pas appelé à prendre le micro pour le dire à tout le monde. Tu vas voir la personne. C'est ça. Hein? Tu gardes ça dans un cercle fermé. Tu vas voir la personne. Tu confrontes la personne. S'il refuse, voilà, tu vas chercher deux ou trois témoins. Après, tu peux le dire à l'église, à tes dirigeants. Mais suivons les conseils de sagesse que Dieu nous demande. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce message que tu nous as adressé. C'est vrai que celle que tu vas épouser, ta fiancée, elle n'est pas toujours top, top. Ce n'est pas toujours un top modèle. Et Seigneur, nous vivons avec cette réalité que nous sommes en processus de sanctification, que nous sommes transformés de gloire en gloire. Et à un moment ou à un autre, on sera face à face à ce qui n'est pas encore sanctifié ou ce qui n'est pas encore glorieux. Que cela ne devienne pas une occasion de chute, une occasion de péché. Seigneur, ou une occasion d'être offensé, donne-nous de grandir, donne-nous de mûrir. Seigneur, nous prions pour les églises, nous prions pour les bergers, nous prions qu'ils progressent. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui avec notre langue, Seigneur, médisons, critiquons, mais de gens qui prions pour soutenir et pour voir ces gens progresser, Seigneur. Tu ne veux que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, on le fait pour l'édification de l'Église, non pas sa destruction. Pardonne-nous, Seigneur, comme le disait Bonhoeffer, que parfois nous aimons l'image que nous nous faisons de l'Église plutôt que l'Église où on est, qui est la vraie Église, celle qu'on voit et qu'on touche du doigt. Seigneur, donne-nous d'aimer la réalité, non pas, Seigneur, l'Église virtuelle, non pas l'Église qui a été retouchée par Photoshop. Ça, c'est la photo, elle est magnifique, mais ça, c'est pas la vérité. Quand on enlève Photoshop, on voit les défauts. Et la réalité, c'est ça aussi pour l'Église de Jésus qui est en chemin vers la salle de noces. Et Seigneur, je sais aussi qu'il y a eu des gens, je le crois peut-être, personnes qui m'écoutent, qui ont été réellement offensées par un pasteur, réellement offensées par un ancien, un diacre, par un frère, par une sœur, quelque chose qui a été une occasion de chute et qui fait que cette personne offensée est maintenant profondément blessée, cassée. Et moi, je veux croire que tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu qui a ressuscité Lazare quand il sentait déjà. Et je veux prier que cette personne, tu lui donnes la grâce, la force, le vouloir et le faire de pardonner et de qu'il puisse être vainqueur, Seigneur, de ce qui s'est passé et se remettre en route, que tu le diriges vers un lieu de restauration, Seigneur, vers un leadership où il pourra te servir, une surveillance qui va être bienfaisante. Et je vais prier que cette personne, Seigneur, puisse à nouveau retrouver la joie d'une communion fraternelle qui ne sera pas parfaite, mais qui sera satisfaisante et bienfaisante. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ces enseignements, au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à bientôt pour la suite de ces séminaires sur l'offense. Que Dieu vous bénisse. Amen.